Et maintenant, la parole à Nathalie Arthaud.
Travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Comme l'a dit Jean-Pierre, ces élections donnent aux travailleurs l'occasion de se faire entendre. Mais pour faire entendre leurs intérêts, les travailleurs ne doivent pas se laisser entraîner dans les faux débats qui agitent cette campagne, que ce soit sur les frontières de l'Europe, sur le protectionnisme ou sur l'euro. Les principaux politiciens opposent l'euro au franc pour ne pas avoir à se positionner sur le niveau des salaires. Ils opposent la France à l'Europe pour masquer la responsabilité patronale. Ils opposent le protectionnisme à la mondialisation pour ne pas parler du capitalisme. Du Front de gauche jusqu'au Front national, en passant par le Parti socialiste et la droite, tous jouent à ce jeu-là. C'est une diversion. En plus de détourner les travailleurs des combats qu'ils ont à mener, ces idées distillent le poison de la division, du nationalisme, quand ce n'est pas celui de la xénophobie. Alors les travailleurs doivent rejeter ces idées nuisibles et réaffirmer l'internationalisme porté depuis toujours par le mouvement ouvrier en proclamant « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Beaucoup, au premier rang desquels le Front National, nous disent que tout est de la faute de Bruxelles et qu'il faut considérer les travailleurs des autres pays d'Europe comme des concurrents, des adversaires, des ennemis. Des adversaires, ceux qui, aux quatre coins d'Europe, subissent les mêmes licenciements, les mêmes blocages de salaires, la même démolition des services publics. Des ennemis, ceux qui sont comme nous sous le diktat des banques et des grands groupes capitalistes. Des concurrents, ceux qui viennent travailler sur les chantiers de construction en France, non, des travailleurs comme nous tous ici, des exploités, bien forcés d'aller où ils peuvent pour gagner leur croûte. La classe ouvrière est internationale par nature. Elle existe dans tous les pays parce que partout où le capitalisme s'est imposé, il a généralisé la condition d'exploité à l'immense majorité de la population. Internationale aussi, parce que les travailleurs de tous les pays se sont mélangés depuis toujours. Marx disait « Les travailleurs n'ont pas de patrie ». Et ce n'était pas qu'une façon de prendre le contre-pied du nationalisme de la bourgeoisie. C'était un constat. Le constat que dans cette société capitaliste, les travailleurs sont forcés de se déplacer, forcés d'aller vivre où ils trouvent du travail. Aujourd'hui, en France, quand on est licencié d'une usine, il faut de plus en plus changer de ville ou de région pour espérer retrouver du travail. Mais combien d'autres travailleurs sont forcés de faire des milliers de kilomètres, de changer de continent, de langue, d'abandonner leurs attaches, dans l'espoir tout simple de pouvoir vivre. Il est aujourd'hui beaucoup question des travailleurs détachés, roumains, bulgares ou polonais. Mais combien de paysans italiens, algériens, marocains ont été détachés de leurs champs tout au long du XXe siècle ? Détachés de leurs champs pour venir travailler dans les mines, sur les ports, dans les usines de montage. Au XIXe siècle déjà, Londres, Paris, les grands chantiers de construction de chemins de fer ou les régions minières étaient des points de ralliement de travailleurs français, allemands, anglais, irlandais, belges, polonais. Comme aujourd'hui, la bourgeoisie a toujours cherché à profiter de la misère ouvrière pour mettre en concurrence les travailleurs, casser les salaires, aggraver l'exploitation. Mais les travailleurs n'en sont pas restés à se regarder en chien de faïence. Ils y ont répondu de la seule manière possible en s'organisant et en combattant ensemble. Le mouvement ouvrier, à l'image de la classe ouvrière, a donc toujours été international. Sur les barricades de 1848, les Gavroches ont côtoyé les ouvriers italiens, allemands, suisses, belges. Le premier gouvernement ouvrier, la Commune de Paris de 1871, avait nommé à sa direction un Hongrois, Léo Frankel, et un Polonais, Dombrowski, à son commandement général. La première grande organisation ouvrière fut l'Association internationale des travailleurs, créée à Londres en 1864, à partir de liens existants entre les ouvriers de toute l'Europe. Karl Marx résuma son but en deux phrases. L'émancipation de la classe ouvrière doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Et c'est sur cette base que se développèrent les premiers partis ouvriers nationaux dans les années suivantes. Pour les dirigeants qui étaient Marx, Engels, Lénine, Trotsky ou Rosa Luxembourg et qui avaient l'internationalisme chevillé au corps, il était évident que le combat des travailleurs était un combat international. Mais ça l'était aussi pour un grand nombre de militants. Leur internationalisme allait de pair avec la lutte de classe et il en va de même aujourd'hui. La conscience internationaliste est indissociable du combat des travailleurs. C'est la conscience qu'au-delà de leurs différences, au-delà des nationalités et des frontières, les travailleurs ont les mêmes intérêts et forment une seule et même classe sociale. C'est la conscience que ce qui sépare les hommes, ce ne sont pas les frontières géographiques, mais les frontières sociales, les frontières de classe qui divisent la société en exploités d'un côté et en exploiteurs de l'autre. C'est le rejet du nationalisme et du chauvinisme. C'est la conviction que les luttes des travailleurs dans quelques pays que ce soit font avancer le sort de tous. C'est la conviction que le combat des uns est le combat de tous. Cette conscience, elle n'a jamais été innée. Elle s'est construite et elle s'est transmise au travers des organisations ouvrières, au travers de journées de lutte internationales comme le 1er mai, au travers aussi du rejet des hymnes et des drapeaux nationaux remplacés par le drapeau rouge et le chant de l'international. Et c'est peu dire que les partis de gauche n'ont plus cette politique aujourd'hui. Cela fait bien longtemps que le Parti communiste français a fait sien le drapeau bleu-blanc-rouge et la Marseillaise. Bien longtemps que ses représentants ne parlent plus au nom des travailleurs, mais au nom des Français, comme tous les partis bourgeois. Le Parti communiste, comme le Parti de gauche, se place comme les politiciens bourgeois sur le terrain du nationalisme. Qu'est-ce qui sera bon pour la France? Qu'est-ce qui sera bon pour l'économie du pays, se demande-t-il. Mais autant se demander ce qui sera bon pour Bouygues, pour Peugeot, pour Bettencourt, car les intérêts de la France sont toujours les intérêts de la bourgeoisie française, jamais ceux des travailleurs et des pauvres. Eh bien, les travailleurs, eux, les travailleurs conscients, doivent opposer à tout ce monde-là leur point de vue de classe et leur internationalisme et se demander non pas ce qui sera bon pour la France, mais qu'est-ce qui sera bon pour les travailleurs et qu'est-ce qui sera bon pour tous les travailleurs, quelle que soit leur nationalité et leur origine. L'internationalisme n'est pas qu'une question de solidarité entre exploités. Ce n'est pas non plus qu'une question d'efficacité dans le combat. C'est la seule issue de l'humanité. C'est la conviction que les travailleurs ne pourront pas s'émanciper à l'échelle d'un seul pays. Il n'y a pas de société plus folle que cette société capitaliste. Pourquoi sommes-nous plongés dans une crise dont personne ne voit le bout? Pas parce qu'il manque des bras pour produire, des millions de travailleurs sont condamnés au chômage. Pas parce qu'il manque des usines. Des dizaines, si ce n'est plus, sont fermées chaque jour en Europe. Pas parce qu'il manque des capitaux. Des milliards sont gâchés, dilapidés dans des dépenses extravagantes, ou pire, dans la spéculation. Près d'un milliard de personnes sont condamnées à la sous-alimentation, alors que nous produisons de quoi nourrir deux fois la population de la planète. Des centaines de millions d'êtres humains sont privés de l'accès à un logement digne de ce nom, à des soins convenables, à la culture, voire simplement à de l'eau courante. Tout cela pourquoi? À cause des lois du capitalisme. Parce que les capitalistes ne produisent que pour ceux qui sont solvables. Parce qu'ils n'investissent que dans ce qui est le plus rentable. Parce qu'ils préfèrent le gain rapide de la spéculation à celui moindre de la production. Parce qu'au lieu d'organiser rationnellement la production et de produire pour les besoins de tous, les capitalistes sont lancés dans une accumulation individuelle délirante et dans une concurrence à mort. La seule issue pour l'humanité est de renverser le capitalisme et de fonder l'économie sur des bases collectives. Mais cette économie ne peut pas fonctionner autrement que sur une base mondiale. L'économie capitaliste étouffe de ses propres contradictions. Elle étouffe sous l'effet de la loi du profit, de la propriété privée et de la concurrence. Mais à toutes ces contradictions internes s'ajoute le fait que l'économie et les entreprises sont internationalisées alors que le monde et les continents sont morcelés en États nationaux. C'est peu dire que le capitalisme est mondialisé depuis toujours. Il s'est développé à partir du commerce international. Le commerce avec l'Afrique, avec l'Asie et le Moyen-Orient, le commerce triangulaire et la traite esclavagiste au XVIIe et XVIIIe siècles ont été à la base de la révolution industrielle. C'est la bourgeoisie montante qui a réalisé la première mondialisation. Et elle a ainsi étendu ses méfaits, l'exploitation, les rapines, le pillage et les massacres à l'échelle de la planète. Depuis lors, les échanges internationaux n'ont fait que s'intensifier. Les capitaux se sont mêlés, les travailleurs aussi. Le marché est devenu mondial. Les agriculteurs se fournissent et vendent sur le marché mondial. La moindre usine travaille pour ou avec des entreprises étrangères. Pour être fabriqué, le moindre produit nécessite une chaîne d'échanges internationaux. Et bien malin, celui qui voudrait consommer 100% français. Un journaliste y est frotté en essayant de vivre pendant un an Made in France. Il s'est débarrassé de 95% de son mobilier et de ses appareils électriques. Il a remplacé le café et le thé par la chicorée et le jus de pomme. Et grand déchirement, paraît-il, il a dû se passer de ses jeans, de son réfrigérateur et de son coupe-ongle. S'il avait cherché de quel acier était fait son opinel, il aurait dû aussi s'en séparer, car son acier inoxydable est suédois. Quant à sa mobilette, elle ne roulait sûrement pas au vin rouge. Et il n'a pas non plus poussé son expérimentation jusqu'à rechercher une énergie 100% française, ce qui l'aurait forcé de s'éclairer à la bougie, à supposer même qu'il y ait des bougies et des allumettes 100% françaises. Comme quoi, tous ces gens-là sont peut-être naïfs, mais ils sont quand même pas fous. Et disons à la décharge de ce journaliste qu'il a payé un peu de sa personne. Quand un Montebourg, chantre du Made in France, est bien placé pour savoir que ses discours ne valent rien, s'est contenté, lui, de porter une marinière pendant 3 minutes, le temps de la photo. Oui, Montebourg ressemble vraiment à ces bonimenteurs de foire. Vous savez, ceux qui sont payés pour raconter et pour vendre n'importe quoi à des gogos. Parce que son histoire de patriotisme économique, c'est vraiment ça. Regardez son cinéma autour d'Alstom. Il s'excite et il fait mine d'œuvrer pour l'intérêt supérieur en poussant l'offre de Siemens. Mais il sait que la décision n'appartient pas au gouvernement. Il sait que dans cette société, le pouvoir est dans les mains de ceux qui détiennent les capitaux. Et ce n'est pas le décret qu'il vient de prendre qui changera cela. Qu'en fera-t-il d'ailleurs? Que le gouvernement n'imagine pas une seconde nationaliser Alstom montre justement qu'il ne veut rien imposer aux grands actionnaires. Alors tout cela, c'est de la gesticulation. Si les grands actionnaires d'Alstom, à commencer par Bouygues, actionnaire pour 29% d'Alstom, trouvent plus d'intérêt à vendre à General Electric qu'à Siemens, ils vendront à General Electric, n'en déplaise au gouvernement, à Montebourg et à toutes ces sornettes patriotiques. Des sornettes patriotiques, vraiment. Car ce que ne dit pas Montebourg, c'est que les turbines à gaz fabriquées par Alstom l'ont été pendant une décennie sous licence General Electric, c'est-à-dire sous licence américaine, et qu'ensuite elles l'ont été sous licence suédoise. Alors, c'est cela que Montebourg appelle l'indépendance énergétique de la France. Alstom compte 18 000 salariés en France, mais 70 000 dans le monde. Et avec son activité essentiellement tournée vers l'exportation, Alstom n'est pas plus française que General Electric, qui emploie 11 000 salariés dans le pays et fait travailler aussi des centaines de sous-traitants. Quant à faire croire que l'emploi et les intérêts des travailleurs en France seront mieux défendus si le pavillon français est hissé sur le toit de l'usine, c'est vraiment se moquer du monde. Les ouvriers de Belfort en savent quelque chose. Qu'ils travaillent chez Alstom ou chez General Electric, ils ont été confrontés aux mêmes suppressions d'emplois, aux restructurations, au chantage à la compétitivité. Alors laissons les bonimenteurs de foire discourir sur l'indépendance de la France et pleurer sur la perte de fleurons français qui ne sont ni des fleurons ni français, ils ne sont bons qu'à cela. Non, l'idée de produire et consommer 100% français est une idée réactionnaire et stupide. On ne va pas installer des usines d'assemblage d'avions de partout. On ne va pas cultiver des oranges ou des bananes ou des cacaoyers en Bretagne. Les groupes pétroliers parviendront peut-être à leur fin en exploitant le gaz de schiste qu'ils ont trouvé dans le sous-sol français, mais ils n'y trouveront pas de pétrole. Ce sont les échanges de matières premières, de technologies, de produits, de capitaux, d'idées et d'hommes qui irriguent l'économie et qui lui permettent d'avancer. Bien sûr, cette économie avance surtout au profit d'une minorité. Et s'il y a quelque chose à changer, c'est cela. Mais la mondialisation est un fait. Il n'y a pas plus de produits français que de produits allemands ou chinois. Le moindre produit nécessite l'intervention d'une myriade de métiers, de services, de pays, de travailleurs. L'imbrication de l'économie à l'échelle de la planète est telle qu'il est impossible de revenir en arrière sans imposer des privations sans fin et une régression effroyable. Ce que les travailleurs ont à combattre dans la mondialisation capitaliste, ce sont les rapports de domination, de pillage, le sous-développement et les répercussions néfastes qui en découlent sur l'environnement et sur la planète. Ce que les travailleurs ont à combattre dans la mondialisation capitaliste, ce ne sont pas les échanges, ce n'est pas la mondialisation, c'est le capitalisme. L'accord de libre-échange transatlantique que l'Europe est en train de négocier avec les Américains est maintenant le symbole de la mondialisation qu'il faudrait combattre. Bien sûr, il faut dénoncer ce que les multinationales manigancent derrière notre dos. Mais gardons-nous de faire croire que les multinationales européennes ou françaises sont meilleures que les américaines. Le poulet au chlore, que les adversaires de ce traité présentent comme une spécialité américaine, n'est certes pas très appétissant. Mais n'oublions pas que manger européen ne nous a protégés ni de la vache folle, ni des lasagnes à viande de cheval. Souvenons-nous du scandale du Mediator, vendu à des millions de patients de par le monde comme un coupe-faim par Servier, grand patron français s'il en était, décoré de la Légion d'honneur par Sarkozy. Et c'est sans oublier le scandale de l'amiante, dont la nocivité fut établie il y a un siècle, mais qui ne fut interdite en France qu'en 1997 et qui tue encore aujourd'hui. Cet accord permettrait aux multinationales, nous dit-on, de prendre le pouvoir sur les États, comme si elles ne l'avaient pas depuis longtemps. Alors n'agitons pas des chiffons rouges et gardons-nous de faire croire que le problème est le libre-échange et la circulation des marchandises. Les liens économiques, sociaux et humains qui ont été tissés au travers de cette mondialisation sont des liens précieux. C'est la base sur laquelle un système plus productif que jamais s'est développé. Et cela, il ne faut pas le détruire, mais il faut le maîtriser. Il faut que les travailleurs le reprennent à leur compte, de sorte qu'ils servent à l'humanité tout entière. Cela nécessite de se débarrasser de la dictature d'un nombre restreint de groupes industriels et financiers en concurrence les uns avec les autres, de faire en sorte que ces immenses possibilités scientifiques, technologiques et productives de la société ne soient plus subordonnées à la recherche du profit. Les multinationales, sous le contrôle des capitalistes, ont un grand pouvoir de nuisance. Mais ces mêmes multinationales, mises au service de la population, pourraient être demain des outils fantastiques pour maîtriser notre vie économique, pour l'organiser consciemment, rationnellement, de façon à répondre aux besoins de tous, tout en économisant les ressources et tout en combattant la pollution. Aucun des grands problèmes qui se posent à l'humanité, qu'il s'agisse de nourrir toute la planète, de guérir de maladies meurtrières, de pourvoir le monde entier en énergie, en transport, en logement, ne peut être résolu avec le repli national. Toutes ces questions se posent désormais à l'échelle de la planète, et s'il revient aux travailleurs de prendre le pouvoir et d'organiser la production, ils devront le faire à l'échelle du monde. En 1914, alors qu'éclatait la Première Guerre mondiale, Trotsky parlait ainsi des objectifs que le prolétariat devait se fixer. Pour le prolétariat européen, il ne s'agit pas de défendre la patrie nationaliste, qui est le principal frein au progrès économique. Il s'agit de créer une patrie bien plus grande, les républiques des États-Unis d'Europe, première étape sur la voie qui doit mener aux États-Unis du monde. À l'impérialisme sans issue du capitalisme, le prolétariat ne peut qu'opposer une organisation socialiste. Pour résoudre les problèmes insolubles posés par le capitalisme, le prolétariat doit employer ses méthodes, le grand changement social. Mais la révolution prolétarienne n'ayant pas vaincu, il est revenu à la bourgeoisie d'essayer de construire l'Europe. Et c'est peu dire que cette construction européenne n'a pas été l'œuvre d'idéalistes inspirés par le désir de mettre fin aux guerres et de fonder les relations inter-européennes sur l'amitié entre les peuples. Cette construction européenne, elle a été l'œuvre de banquiers, d'industriels, de marchands obsédés par la concurrence. Pour les bourgeois d'Europe, la construction de l'Europe a été tout à la fois une nécessité et une impossibilité. Une nécessité parce que l'industrie française ou allemande, en commençant par celle de l'acier et du charbon, ne pouvait pas se développer dans les frontières étroites des marchés nationaux. Parce qu'elle ne pouvait pas espérer jouer dans la cour des États-Unis ou du Japon sans faire un grand marché européen. Mais une impossibilité aussi, parce que chaque bourgeoisie voulait bien accéder au marché du voisin, tout en continuant à protéger son propre marché. Parce que chaque gouvernement voulait bien des institutions européennes, tout en gardant leurs propres prérogatives. Cette contradiction ne fait que s'exacerber aujourd'hui, avec des groupes capitalistes toujours plus internationalisés, œuvrant toujours plus à l'échelle de la planète, mais toujours plus demandeurs de la protection et des subventions de leur État. Le résultat de toutes ces contradictions et de ces compromis, c'est l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui. Une espèce de mariage de raison, où chacun fait chambre à part, défend son pré carré, et où surtout, on ne met pas son compte bancaire en commun. C'est une Europe rabougrie qui, au bout de 60 ans, ne compte que 28 pays sur les 45 que compte l'Europe. C'est une Union européenne qui n'englobe toujours pas toute la moitié orientale de l'Europe, la Russie, l'Ukraine, la Biélorussie, sans parler de la Turquie. Et si des voix s'élèvent aujourd'hui, ce n'est pas pour élargir l'Europe, mais pour la rétrécir en officialisant une Europe à deux vitesses. Que les défenseurs de l'Europe en soient aujourd'hui à vanter le programme Erasmus et l'obligation de la ceinture de sécurité à l'arrière comme les grands acquis de l'Europe montrent qu'ils n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent pour nous faire aimer cette Union européenne. Leur ultime argument, et le seul un peu conséquent, est que l'Union européenne a garanti la paix. Mais ces 20 dernières années, du Rwanda à la Yougoslavie, en passant par l'Irak, des millions de femmes et d'hommes ont péri sous les bombes ou sous les coups de machette. Des pays entiers ont été ravagés. L'enfer de la guerre est aujourd'hui le quotidien en Syrie, en Centrafrique. Mais du moment que ces messieurs dorment sur leurs deux oreilles, ils appellent cela la paix. Les dirigeants français, allemands et britanniques se vantent d'être des forces de paix parce qu'ils ne font pas s'entretuer leur propre peuple, comme ils l'ont fait pendant les deux guerres mondiales, mais ils font s'entretuer les peuples dans le tiers-monde. Ils envoient leurs avions de combat aux quatre coins du monde. Ils font sillonner les mers par leurs sous-marins nucléaires, les airs par leurs drones de combat. Et quand leurs intérêts sont en jeu, ils mettent des pays entiers à feu et à sang. Les grandes puissances européennes à la tête de l'Europe n'ont rien de vigie pacifique. Comme les États-Unis, ce sont des puissances impérialistes, prêtes à tout pour sauvegarder leur influence et leurs intérêts aux quatre coins du monde, y compris la guerre. Et se vanter d'avoir installé la paix en Europe au moment où l'Ukraine s'enfonce dans la guerre civile, guerre dont l'Europe partage la responsabilité avec les États-Unis et la Russie, est proprement révoltant. Quant au fait qu'en 60 ans de construction, rien n'est avancé sur le terrain des droits démocratiques et sociaux, il ne faut pas en être surpris. L'Union européenne a été conçue et créée par et pour les intérêts des groupes capitalistes. Il n'a jamais été question de créer un espace où les salaires, les droits sociaux et même les droits des femmes soient alignés vers le haut. Que les salaires roumains ou bulgares soient 5 à 10 fois inférieurs aux salaires allemands ou français, que Malte, Chypre, la Pologne ou l'Irlande continuent d'interdire l'avortement et que le gouvernement espagnol y songe sérieusement, les dirigeants européens s'en moquent complètement. Parler d'Europe sociale, de SMIC européen, c'est bon pour les campagnes électorales, mais cela n'engage à rien. Même un droit aussi élémentaire que la libre circulation des personnes n'est pas complet aujourd'hui. Par exemple, pour les Roumains, les Bulgares ou pour les Croates. Et regardez comment les Roms sont traités. Pour les Roms, la construction de l'Europe aurait pu avoir une signification concrète. Et que fait l'Union européenne ? Elle ne leur laisse que l'étroite possibilité d'errer et d'être chassés d'une ville à une autre, d'un pays à un autre. Ce que les dirigeants politiques ont appelé la construction européenne n'est qu'une histoire de marchandage sordide où les travailleurs et les plus pauvres n'entrent pas en ligne de compte. C'est une machine de guerre commerciale. Un instrument d'oppression de la bourgeoisie qui s'ajoute à l'instrument d'oppression que constituent les États nationaux. Car nous ne sommes pas de ceux qui rejetons l'Europe pour vanter le repli national. Combattre l'Europe pour s'en remettre aux institutions et à la souveraineté nationale n'est qu'une autre façon de servir la soupe à la bourgeoisie. Il est stupide d'opposer la souveraineté nationale à l'Europe quand la souveraineté est dans les mains des capitalistes et qu'elle s'impose à chacun des pays comme à l'échelle du monde. Il est stupide d'opposer les responsables de Bruxelles ou d'Europe à ceux de la France. Ce sont les mêmes politiquement, voire les mêmes tout court. Bruxelles ne prend aucune décision importante qui ne soit voulue ou du moins avalisée par les gouvernements nationaux, au premier rang desquels il y a bien sûr le gouvernement français. Quant à celui-ci, il ne prend aucune décision économique de quelque importance que ce soit sans que celle-ci ne soit elle-même avalisée par le grand patronat. Ceux qui prétendent que les coups contre les services publics, contre les quelques articles de loi protégeant les travailleurs, viennent de Bruxelles, des institutions européennes ou de Merkel, visent à dégager la responsabilité de chacun des gouvernements et à dédouaner ceux qui sont les laquais de la bourgeoisie. Non, Merkel ne mène pas Hollande par le bout du nez. Ce n'est pas l'égoïsme allemand qui en fait baver à toute l'Europe. Les dirigeants français et allemands sont d'accord pour faire ce que les financiers leur demandent. Ils ont été d'accord pour étrangler les travailleurs grecs ou espagnols. Ils ont été d'accord pour imposer à tous les États des politiques d'austérité. S'il faut faire porter la responsabilité des décisions prises par l'Europe sur quelqu'un, c'est bien sur le couple franco-allemand. Les deux plus grandes puissances qui dominent la zone euro. Car c'est aussi une caractéristique de l'Europe que d'avoir maintenu les rapports de domination entre les pays les plus riches de l'Europe et ceux plus pauvres, comme la Grèce. Quant à l'Europe de l'Est, encore beaucoup plus pauvre, elle n'a été que le champ clos des rivalités des multinationales françaises, allemandes et britanniques. Et les classes populaires de toute la partie orientale de l'Europe, de la Pologne à la Bulgarie, ont de quoi être déçus par cette construction européenne dont ils n'ont vu que les banques et les multinationales se comporter en prédateurs. De l'Europe, ils n'ont vu que les huissiers leur demandant d'abandonner les maigres protections dont ils disposaient. Ils n'ont vu que la crise les condamnant au chômage. Et c'est en partie ce qui explique la virulence plus grande de l'extrême droite dans cette partie de l'Europe. L'Union européenne est à l'image du capitalisme, inégalitaire, injuste, gangréné par la spéculation et la crise. Mais encore une fois, ce n'est pas l'Europe qui est en cause, mais le capitalisme. Et tous les démagogues qui font croire l'inverse et brandissent le nationalisme emmènent les peuples dans une impasse mortelle. L'Europe, l'Allemagne, la France, la Grèce sont des paravents derrière lesquels se cache la domination des industriels et des financiers de toutes origines. Poser les problèmes en termes nationaux, c'est faire oublier qu'il y a des exploités et des exploiteurs dans tous les pays. Et n'en déplaise à Jean-Luc Mélenchon, l'Allemagne n'est pas ce pays de nababs retraités qui vivent sur le dos des travailleurs français jeunes et productifs comme il le laisse entendre. L'Allemagne, c'est aussi ces millions de travailleurs allemands, turcs, qui vivotent avec 700 euros, 800 euros par mois, tout en travaillant dur. Alors, être sensible à ce genre d'argument nationaliste, quand il s'agit des Grecs ou des Allemands, opposer les peuples les uns aux autres, ne pas voir les responsabilités de nos propres gouvernements, c'est se condamner à subir. Et ce qui se passe en Ukraine doit être pour tous un avertissement. Depuis la chute de Yanukovych, les événements se sont précipités avec l'agitation des bandes nationalistes. À l'agitation des bandes nationalistes dans la partie occidentale de l'Ukraine, dont certains ne cachent pas leur inspiration nazie, répond l'agitation de celles pro-russes. Chacun désigne l'autre camp comme l'adversaire, le responsable de tous les maux, alors que la réalité des pensions de misère, les fermetures des mines, le chômage de masse est autant partagé d'un côté que de l'autre. Et des deux côtés, ce sont les mêmes bureaucrates qui amassent des fortunes pendant que leur peuple sombre dans la misère. En Ukraine, le nationalisme est devenu pour la population un piège mortel. Alors, quelle que soit sa forme, à bas le nationalisme! Faire croire que l'État-nation pourrait protéger les travailleurs est une escroquerie. Croire que le repli sur les frontières nationales et le protectionnisme pourraient être d'un quelconque secours pour les travailleurs est un leurre. Le protectionnisme, prétendument solidaire, version Mélenchon, ou gouvernemental, version Montebourg, n'est pas meilleur que le protectionnisme xénophobe de Le Pen. Ils forment un seul et même piège. Le protectionnisme, c'est d'abord des taxes en plus pour les consommateurs. Tout le monde se plaint des taxes et des augmentations d'impôts. Mais le protectionnisme, c'est un impôt supplémentaire sur tout ce qui est importé. Les produits bon marché, qui permettent justement aux plus pauvres de joindre les deux bouts, seront renchéris. C'est sûr que cela ne posera pas de problème aux plus riches. Mais aux familles populaires, si. La baisse de l'euro, voire la sortie de l'euro, aura les mêmes conséquences. Car baisser la valeur de l'euro, c'est aussi augmenter le prix de tout ce qui est importé, et en particulier le prix du pétrole. Pour les travailleurs qui hésitent déjà à faire le plein de carburant, cela pourrait être bien plus difficile encore demain. L'objectif de toutes ces mesures protectionnistes est, nous dit-on, de remplacer les produits d'importation par des produits « made in France » de façon à recréer des emplois. Mais à condition que ces messieurs les capitalistes veuillent bien investir et trouvent un quelconque avantage à produire ces produits en France. Prenez le secteur du bâtiment. Il manque 1 million de logements à des prix abordables pour un salaire de travailleur. C'est un secteur protégé de la concurrence internationale. C'est du tout cuit pour Bouygues, pour les Vinci et pour les autres marchands de béton. Eh bien, ce n'est pas assez rentable au goût de ces messieurs. Et ils préfèrent se lancer dans des partenariats publics jutés public-privé, plus juteux, voire dans la construction de tours de 800 mètres de haut à Dubaï. Alors, faire croire que le protectionnisme, via des taxes ou la baisse de la monnaie, relancera automatiquement la production, l'industrie, la croissance et les emplois est une fumisterie. Croire, d'ailleurs, que l'on pourrait arrêter les importations tout en continuant nous-mêmes de vendre nos propres produits à l'étranger est une véritable escroquerie. Le protectionnisme, ce n'est pas la fin de la guerre commerciale, c'est son aggravation. C'est une déclaration de guerre dans la guerre. C'est plus de frontières séparant les peuples, plus d'insanité patriotique. Car le protectionnisme, c'est l'expression économique du nationalisme. Ce sont là les deux faces d'une même pièce. Et faut-il rappeler que le protectionnisme des années 1930 a débouché sur la Seconde Guerre mondiale ? Alors non, le protectionnisme n'est pas cette recette miracle pour que ce système capitaliste tourne rond pour les exploiter. Il ne le peut pas. Les travailleurs n'ont donc pas à choisir entre être exploités à la sauce libre-échange ou à la sauce protectionniste. Ils ont à se battre contre l'exploitation. Le Pen est sans doute celle qui crie le plus fort contre l'Europe. À l'entendre, tout est de la faute à l'Europe, de la Commission européenne, de Bruxelles. Rien du patronat, rien de la rapacité patronale. Le grand patronat, ses bénéfices, ses dividendes, l'exploitation et les bas salaires qu'il impose, cela n'existe pas pour elle parce qu'elle est de leur monde. Pour Le Pen, comme pour les autres, l'exploitation est dans l'ordre des choses. Elle est normale. Le Pen fait de la démagogie. Elle plaint les travailleurs. Elle verse une larme sur les retraités modestes et sur les chômeurs. Mais elle se prépare à servir le système qui les écrase, comme Sarkozy et comme Hollande, avec des conséquences pires encore pour les travailleurs. Toute la politique du patronat consiste à diviser les travailleurs, à les monter les uns contre les autres. Eh bien, Le Pen fait la même chose. En opposant les travailleurs qui ont la carte d'identité française à ceux qui ne l'ont pas, Le Pen sème le poison de la division parmi les travailleurs. Elle accuse les travailleurs détachés des pays de l'Est de faire une concurrence déloyale aux Français. Mais en France, le plus grand contingent de travailleurs détachés, ce sont les Français salariés au Luxembourg. C'est le propre du capitalisme que de mettre en concurrence les travailleurs les uns avec les autres, de nous mettre tous en concurrence les uns avec les autres, les jeunes et les anciens, les diplômés et les non-diplômés, ceux qui ont le permis et la voiture et ceux qui ne l'ont pas. Le piège mortel serait de nous combattre. Alors oui, Le Pen est l'ennemi mortel des travailleurs. C'est une démagogue qui s'appuie sur la démoralisation et la résignation pour distiller son poison. La seule force qui la fera reculer, c'est celle des travailleurs en lutte. Beaucoup déplorent que face au Front National, il n'y ait pas d'unité à la gauche de la gauche ou à l'extrême gauche. Mais la force de l'extrême droite réside dans l'absence de perspective à l'opposé, c'est-à-dire dans l'absence d'un courant politique qui milite sur le terrain de la lutte de classe, dans l'absence d'un parti révolutionnaire qui rejette non seulement les politiciens qui se succèdent, mais l'ordre capitaliste lui-même. La seule façon d'enrayer l'influence du Front National dans la classe ouvrière, c'est que les travailleurs reprennent confiance dans leur force, dans leur capacité de peser, qu'ils retrouvent leur combativité. Il ne faut pas chercher une énième combinaison électorale, il faut lever le drapeau des luttes. Et c'est une évidence que ce n'est pas la politique de Mélenchon. Toute sa politique consiste à ressusciter la gauche. Et avec qui ? Avec les 41 députés qui se sont abstenus lors du vote de confiance pour s'écraser ensuite lamentablement, avec les écologistes qui ont certes quitté le gouvernement mais qui ne sont pas dans l'opposition. Voilà le nouveau parti de gauche auquel rêve Mélenchon. Une énième combinaison gouvernementale qui pourrait le hisser au pouvoir en faisant croire que cette fois, elle ferait vraiment une politique de gauche. Mais cela fait des décennies que les travailleurs sont baladés avec ces illusions électoralistes. Le NPA dit avoir proposé une alliance électorale tant à lutte ouvrière qu'au front de gauche. Et il regrette d'avoir obtenu une fin de non-recevoir, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Mais le simple fait d'être prêt à s'unir aussi bien avec Mélenchon qu'avec nous montre que nous ne partageons pas du tout la même démarche. Encore une fois, ce n'est pas d'un parti de gauche supplémentaire dont les travailleurs ont besoin, mais d'un parti ouvrier qui parte du point de vue des intérêts des travailleurs. Un parti qui ne dise pas aux travailleurs « Votez pour nous, nous ferons le reste ». Un parti qui milite pour redonner confiance aux travailleurs, qui affirme que les travailleurs ont une force considérable car ils font marcher toute l'économie. Un parti ouvrier qui met en avant les seuls moyens que la classe ouvrière a de peser, les luttes et le rapport de force. Un parti ouvrier qui affirme que tant que l'on n'a pas la force de renverser ceux qui nous oppriment, on est bien obligé de subir, mais les travailleurs ne doivent pas se taire. Pour porter ces perspectives, il faut faire renaître un parti ouvrier révolutionnaire. Nos adversaires réformistes ont souvent caricaturé les communistes révolutionnaires en les dépeignant comme les partisans du grand soir, l'air de dire qu'en dehors de préparer la mythique révolution, ils ne servent à rien. Mais c'est bien dans les combats quotidiens d'aujourd'hui, dans les combats politiques comme dans les combats sociaux qu'il manque un parti qui agisse dans la perspective de l'émancipation des travailleurs par le renversement de l'ordre capitaliste. C'est précisément parce qu'il n'y a pas un tel parti révolutionnaire aujourd'hui que des partis de la bourgeoisie étiquetés à gauche ont pu et peuvent encore prétendre représenter les intérêts des travailleurs. C'est précisément à cause de cela que même un parti dont les intérêts et les moyens sont aux antipodes des intérêts de la classe ouvrière, comme le Front National, peut tromper les travailleurs. Toute la société est marquée par la montée des idées réactionnaires. Mais la montée du racisme, de l'antisémitisme, de la misogynie, du communautarisme, de la xénophobie, le poids des religions dans la vie sociale ne sont pas suspendus en l'air. Ils résultent de rapports de force au sein de la société, d'un rapport de force entre des femmes et des hommes, entre des courants conservateurs et progressistes. Le rapport de force entre ceux qui tirent la société en arrière et ceux qui représentent l'avenir a toujours été, à l'époque du capitalisme triomphant, lié au rapport de force dans la lutte de classe. Des périodes de recul dans la vie sociale, le passé en a connu quelques-uns. L'opposition la plus radicale aux forces réactionnaires venait toujours du mouvement ouvrier, de sa fraction révolutionnaire, justement. Eh bien, voilà ce qu'il est indispensable de recréer. Cela paraît ambitieux quand on sait à quel point le courant ouvrier communiste est minoritaire et à quel point le réformisme social-démocrate puis le stalinisme ont laissé un champ de ruines dans les consciences ouvrières. Mais en même temps, les idées que nous défendons, les idées de la lutte de classe sont du vécu pour des millions de travailleurs et elles retrouveront le chemin de la classe ouvrière. Un des obstacles que nous rencontrons est que nous n'avons pas la crédibilité d'un grand parti. Mais cette crédibilité ne surgira pas à partir de rien. Elle se construit dans les luttes de la classe ouvrière, dans les grèves, dans les affrontements inévitables avec l'État de la bourgeoisie. Mais elle se gagne aussi dans le travail politique sur le terrain, et dans les luttes politiques, entre autres, dans les luttes électorales. Certes, ces européennes, comme les municipales du mois de mars, seront vite oubliées par l'écrasante majorité de la population ouvrière. Mais si ces deux campagnes ont pu rendre plus conscients, ne serait-ce que quelques centaines ou quelques milliers d'exploités, si elles les ont engagées un tant soit peu dans le combat social, cela servira pour l'avenir. Car ce seront les événements eux-mêmes, l'arrogance des Gattaz, des Muliez, le mépris de cette bourgeoisie et de ses politiciens, la violence de la lutte de classe qui amèneront un nombre plus important de travailleurs à la conscience que cela ne peut pas durer. C'est vous dire qu'une fois les élections terminées, les efforts pour que se reconstitue un parti ouvrier révolutionnaire doivent continuer. Nous sommes une petite organisation, bien sûr, mais nos camarades qui défendent nos idées depuis 20, 30, 40, 50 ans, si ce n'est plus. Les camarades ouvriers qui militent dans les entreprises et dans les quartiers populaires ont pu démontrer qu'ils ne sont pas des girouettes qui changent de politique en fonction de l'air du temps ou d'alliances électorales fugaces. Et ils seront encore là demain pour continuer de transmettre à d'autres les idées et les pratiques dont ils sont porteurs, notamment à ceux qui nous ont rejoints pendant cette campagne électorale. Il faut bien sûr que les liens tissés en cette occasion se prolongent. Ce sera moins visible et les médias ne s'y intéresseront plus, si tant est qu'ils s'y soient un tout petit peu intéressés pendant cette campagne électorale. Pour ne citer que cet aspect anecdotique des choses, notre courant a eu droit, dans le cadre des émissions officielles, à deux séquences de 1 minute 26 secondes. Et il ne suffit même pas de comparer ce temps de parole dérisoire à celui dont disposent les grands partis de la bourgeoisie, parce que c'est du matin au soir et dans toutes les informations que la télévision, la radio, la presse répètent et enfoncent dans les crânes le point de vue de la bourgeoisie. Il n'y a pas à s'en étonner. Ce n'est jamais grâce à la grande presse tenue en main par la bourgeoisie que le mouvement ouvrier s'est développé. Il s'est développé en se donnant les moyens de s'exprimer indépendamment. Le premier de ces moyens est tout simplement la parole de ceux qui se retrouvent dans les idées du camp des travailleurs. Les traditions du mouvement ouvrier se sont transmises de bouche à oreille, de travailleur à travailleur. Elles ont été transmises par des femmes et des hommes qui avaient la volonté de prendre le contre-pied des idées et des préjugés favorables à la bourgeoisie. Il faut que cela continue aujourd'hui. Il faut que dans les entreprises où réside la force de frappe du monde ouvrier, comme dans les quartiers populaires, on fasse entendre un autre son de cloche que celui du conservatisme social et de la résignation. Pour cela, il faut bien sûr des militants qui soient sûrs de leurs idées et qui aient la volonté de combattre cet ordre social injuste et dépassé. Mais il faut tout autant des relais, les plus nombreux possibles dans les classes populaires, des femmes et des hommes qui reprennent ces idées à leur compte et qui ont à cœur de profiter de toutes les occasions, des queues dans les supermarchés, des files d'attente de la Sécu, des discussions de café pour les diffuser. Nous pouvons propager nos idées sans attendre que TF1 ou France 2 nous y invitent. Et n'en doutons pas, quand les travailleurs retrouveront confiance en eux, ces idées se répandront comme une traînée de poudre et elles deviendront une force. Alors, dans les 8 jours qui nous restent pour cette campagne, faisons le maximum pour convaincre le plus possible d'électeurs de faire entendre le camp des travailleurs. Le programme de lutte des travailleurs et ses perspectives d'émancipation vont de pair avec l'internationalisme. Tout se tient, c'est le même programme, c'est la même vision communiste. Dans le combat contre la bourgeoisie, toute l'histoire du mouvement ouvrier montre que les travailleurs seront opposés non pas à la bourgeoisie nationale, mais à la bourgeoisie mondialisée depuis longtemps. Car la bourgeoisie elle-même a été forcée, par la logique propre de son système, à dépasser les frontières. Elle a étendu son système sur toute la planète. Et elle a de fait rapproché les peuples et uni les exploités dans un sort commun. Eh bien, il faut en faire une force. L'ouvrier français, roumain ou allemand vivent la même exploitation, le même diktat patronal, la même galère de logement, la même tutelle du banquier. Ils peuvent même avoir le même patron. Alors, moins il y a de frontières, plus les occasions de tisser des liens sont nombreuses entre travailleurs, mieux c'est pour le prolétariat. La bourgeoisie mise sur la résignation, sur les préjugés nationalistes. Elle mise sur le fait que les travailleurs ne sauront pas réagir s'ils sont mis en concurrence les uns avec les autres. Ne tombons pas dans le piège. Ayons une politique vis-à-vis des travailleurs nouveaux venus. Regroupons-nous. Il ne suffit pas de dénoncer les insanités anti-immigrés du Front National. Il faut en prendre le contre-pied, non pas au nom des repliements identitaires, aussi réactionnaires, mais au nom des idées, des valeurs du mouvement ouvrier. Dans un passé, il est vrai, bien lointain, l'honneur du mouvement ouvrier dans les pays développés, où il était le plus puissant, n'était pas seulement de prendre la défense des travailleurs immigrés et d'en être solidaire. C'était de les intégrer dans le mouvement ouvrier, de leur transmettre les idées révolutionnaires et d'en faire des compagnons de combat. Beaucoup de travailleurs des pays de l'Est européen, d'Inde, de Chine, d'Indochine ou du Maghreb, transformés humainement et politiquement par le mouvement ouvrier de France ou d'Allemagne, ont contribué à répandre ces idées dans leur pays d'origine. C'est ainsi que les idées socialistes, puis communistes, ont traversé l'Atlantique et atteint l'Amérique et qu'elles sont allées jusqu'en Asie. Mais cela s'est fait parce qu'il y avait des organisations, des syndicats, qui transmettaient les idées de lutte de classe, la dignité d'appartenir à une classe sociale qui non seulement produisait tout dans cette société, mais qui était porteuse de la transformation sociale. Aujourd'hui encore, les exploités peuvent tirer profit des migrations et du mélange des travailleurs. Ils peuvent retourner la situation à leur avantage, à condition d'avoir la volonté de s'unir autour d'une politique qui représente leurs intérêts de classe, à condition de transmettre les idées de lutte de classe, la fierté d'appartenir à une classe sociale qui non seulement produit tout dans cette société, mais qui est porteuse de la transformation sociale. Le vote lutte ouvrière permettra aux travailleurs de rejeter non seulement tous les politiciens au service de la bourgeoisie, à commencer par le gouvernement Valls-Hollande, mais de rejeter aussi l'ordre capitaliste lui-même. Il représentera sans ambiguïté les intérêts de classe des travailleurs en affirmant que ce n'est ni l'unification européenne ni l'euro que les travailleurs ont à combattre, mais la dictature des financiers. Il représentera le combat de tous les travailleurs contre toutes les oppressions, contre les restrictions à la liberté de circuler, contre la chasse aux immigrés, contre les expulsions des sans-papiers. Voter lutte ouvrière, qui se revendique du communisme, c'est prendre la position la plus radicale contre les organisations d'extrême droite qui constituent une menace pour la classe ouvrière. Et je veux m'adresser aux jeunes, qui sont nés et qui ont grandi en communiquant et en échangeant avec les quatre coins du monde, à ces jeunes qui ne pourraient pas envisager leur vie sans la liberté de circuler à l'échelle de la planète. Et je leur dis, rejetez ces barbelés, rejetez ces frontières artificielles que l'extrême droite veut nous mettre dans la tête. Avec nous, rejetez les idées nationalistes, le racisme, la xénophobie et prenez part au combat des travailleurs. Voter lutte ouvrière dans ces élections, c'est opposer l'internationalisme à toutes les formes de démagogie nationaliste. Voter lutte ouvrière, c'est affirmer que le carcan, ce n'est pas l'Europe, c'est la loi du profit. Le verrou qu'il faut faire sauter, c'est le pouvoir absolu de la bourgeoisie, des financiers. C'est cette dictature qui pèse sur les travailleurs, que ce soit à l'échelle nationale, européenne ou mondiale. Qui fera éclater ce carcan ? Qui démarrera le combat ? Les mineurs de Turquie ? Les ouvrières du Bangladesh ? Les ouvriers de Tunisie, d'Espagne, de Grèce, de France ? L'avenir nous le dira. Mais pour affirmer que le prolétariat d'Europe, avec ses composantes originaires de tous les continents, constitue une seule et même classe sociale, et pour affirmer la nécessité d'une société débarrassée de l'exploitation, votez et faites voter lutte ouvrière.